tout le monde a intérêt à trouver une nouvelle complémentarité entre la nécessité d'une reprise de la croissance et d'une réduction des déficits dans les pays du Nord et la nécessité aussi d'un développement de la croissance intérieure, de la consommation, de la réponse à des besoins essentiels des populations pour les pays du Sud. Et je pense aussi qu'au-delà d'une volonté, je dirais, de fierté et d'autonomie nationale dans des grands pays comme la Chine et l'Inde, il y a le souci de montrer à leur propre population que les actions doivent être menées en tenant compte de cette interdépendance mondiale. Donc je pense que le G20 peut donner en effet une impulsion dans ce sens d'une responsabilité des puissances. Chacun n'est pas seul, même les plus grands. Mais ce qui va être difficile, c'est ensuite la vérification de l'application de cette impulsion. Et là, derrière la réforme du G20, la réforme du Fonds monétaire international, qui est en fait chargée de l'application, est tout aussi importante que cette impulsion du G20.
Dans un message adressé aux participants du sommet, Benoît XVI a appelé les États à privilégier des instruments respectant l'égalité entre tous les États et la nature de l'homme. Vous avez le sentiment que ce message peut être véritablement entendu ?
Je crois que oui. Je pense que ce message peut servir aux chefs d'État et de gouvernement. Enfin, ils pourraient, s'ils le voulaient, y faire allusion dans leur discussion, puisqu'il y a dans le message pontifical à la fois un avertissement de ne pas se considérer comme l'ombril du monde. Le G20 n'est pas seul et les décisions qu'il prend doivent prendre en compte la situation de pays par définition plus pauvres et non présents. Et il est également rappelé par le pape que on ne doit pas en rester sur des questions techniques, et en particulier simplement sur des questions d'équilibre financier, très abstraites, de budget, de lutte contre l'inflation. Mais il faut toujours avoir en tête la finalité humaine. Et en particulier, ça veut dire, par exemple, que la question de la stabilité des changes, et pas seulement leur niveau, ce qui est important dans une perspective humaine, c'est la stabilisation, hors de laquelle il est impossible de mener à bien aucun projet de développement. Lorsque les monnaies sont volatiles, lorsque tout bouge tout le temps, eh bien c'est souvent l'emploi qui sert de variable d'ajustement. Et je pense que là, le pape donne un autre message qui est très utile sur la finalité de ce que les compromis politiques doivent rechercher, c'est le long terme. Ce n'est pas seulement d'amener le niveau de telle ou telle monnaie à être plus proche de ce que l'on souhaite.
Benoît XVI a d'ailleurs interpellé les différents chefs d'État. « Le monde vous regarde », a-t-il déclaré. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État des grandes puissances se trouvent dans une situation où ils sont véritablement mis face à leurs responsabilités? Ils ont à répondre de leurs actes?
Non. Et effectivement, il faut vraiment dire de manière réaliste que ce n'est pas le cas. D'une part, le G20 ne prend pas de décisions qui contraignent les chefs d'État qui en font partie, mais aussi parce que ceux-ci sont d'abord responsables devant leur propre pays. Et donc, il y a toujours l'arrière-pensée de pouvoir montrer à son propre pays, à son opinion publique nationale, que l'on a ménagé, défendu ses intérêts. Donc, le G20, c'est un progrès, mais c'est un progrès qui est limité, qui est tout relatif, et dont la consolidation ne peut venir que d'une prise de conscience des peuples mêmes. Et je pense que c'est aussi le sens de l'intervention du pape, de dire au chef d'État, nous sommes conscients du fait que tout ceci est très difficile, que vous n'êtes pas réellement engagé, mais soyez encouragés par le fait que les opinions publiques, vos opinions publiques, au fond d'elles-mêmes, sont disponibles à prendre en compte le bien commun international. Il y a une convergence, je crois que le pape dit cela aussi, d'ordre culturel. Il y a une maturation d'une opinion publique mondiale sur laquelle vous pouvez appuyer pour être plus courageux que ne l'exigerait formellement le dispositif, c'est vrai, faible du G20.
Depuis le début de la crise économique, quelles avancées les précédents sommets ont-ils permis?
Ils sont réels. Je crois qu'il faut vraiment saluer les progrès que le G20 a permis de faire. Et moi, je m'inscris tout à fait en faux contre les sceptiques. Le G20 a permis de s'accorder d'abord sur une meilleure surveillance partout de l'activité des grandes institutions financières, qu'il s'agisse des produits qu'elles émettent, qui sont soumis à une désormais à davantage de clauses de limitation et de transparence, qu'il s'agisse de leur propre développement. Elles ne peuvent plus faire n'importe quoi, elles doivent rétablir leurs fonds propres, elles doivent s'abstenir de confondre la gestion de leur portefeuille et celle de leurs clients. Elles doivent également s'abstenir de faire un recours systématique aux paradis fiscaux. Donc il y a là un encadrement qui, bien entendu, va prendre des formes différentes selon les zones du monde, selon qu'on est aux États-Unis, en Europe ou en Amérique latine, par exemple. Mais il y a sans aucun doute une impulsion, et on voit que cette impulsion se traduit notamment en Europe et aux États-Unis, par des législations qui sont contraignantes, même si on pourrait souhaiter qu'elles soient plus sévères.
Est-ce que l'on peut considérer qu'aujourd'hui, face à la crise, il y a eu en quelque sorte une prise de conscience, plus de transparence, des recommandations, et que maintenant on doit passer de la phase de la coopération dans les termes à une véritable coopération dans les actes?
C'est exactement ça. Cela dit, il y a pas mal d'actes qui ont été faits. Par exemple, tout ce que l'Union européenne a déjà décidé en matière de renforcement des pouvoirs de supervision, de lutte contre la prolifération des hedge funds, d'encadrement et même de suppression des paradis fiscaux. Mais là où nous n'avons pas assez d'actes et seulement des paroles, c'est dans la coopération multilatérale, dans le fait d'accepter d'être soumis ensemble à une espèce de gendarme qui vérifie que la règle du jeu est bien appliquée. Il ne suffit pas d'appliquer chez soi une règle du jeu, il faut l'appliquer aussi dans sa relation avec les autres. Et là encore, rien n'est fait. Ce qui est en cause là, c'est la réforme du Fonds monétaire international. C'est sans doute une des plus grosses étapes à franchir par le G20, et ce sera un des grands enjeux de la présidence française qui prendra le relais au cours de l'année qui vient.